Aujourd'hui, la masterclass d'Ibrahim Malouf avec Émilie Aubry.
Eh bien, merci d'être avec nous sur France Culture pour la masterclass d'Ibrahim Malouf. Nous sommes ensemble pour une heure pour comprendre comment naît la vocation d'un artiste, comment il donne naissance à une œuvre. Alors c'est vrai qu'avec vous, Ibrahim Malouf, il s'agit d'une œuvre musicale très difficile à attraper, avec ce mélange de rock, de pop, de funk teinté d'Orient, une musique très épicée, je crois, comme vous la qualifiez vous-même. Votre histoire commence au Liban, où vous naissez en 1980, et votre histoire musicale, elle commence avec un instrument, la trompette, un enseignement classique, le conservatoire, sa rigueur, mais aussi son austérité, un instrument derrière lequel on trouve votre père. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis viendra le temps de l'émancipation, de la France, du piano, dont quelque chose me dit qu'il est pour vous l'instrument de la liberté. D'ailleurs, aujourd'hui, vous n'avez pas voulu venir avec votre trompette, comme d'autres ont arrêté la clope. Peut-être vous avez arrêté les instruments avant. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce studio de la Maison de la Radio, vos mains, dans quelques secondes, seront posées sur ce piano et on vous sent très à l'aise dans cette posture-là. Alors, vous allez nous raconter, Ibrahim, comment vous êtes devenu ce musicien qui remplit des zéniths juste, quasiment, avec une musique instrumentale et en chantant parfois, mais à dose homéopathique. Un musicien qui séduit Télérama comme Le Parisien, ce musicien qui semble réussir tout ce qu'il touche, musique de film, album pour vous ou pour les autres, Mathieu Chédid, Vanessa Paradis, un talent fou, je crois, pour humer l'air du temps, réenchanter les anciens, Dalida, par exemple, on y reviendra, je rêve que vous me chantiez, il venait d'avoir 18 ans. Bref, Ibrahim Malouf, entamons cette histoire. Alors, c'est vrai que d'abord, vous et moi, nous avons un lien. Ce lien, il s'appelle Red and Black Light, l'un de vos tubes, devenu générique de l'Esprit Public depuis septembre 2017, cette émission que j'ai le plaisir d'animer tous les dimanches à 11h sur France Culture. Votre musique, c'est vrai, nous a porté bonheur tout au long de l'année et c'est fou parce que je crois que pour vous aussi, ce morceau est un porte-bonheur.
Merci pour cette introduction déjà, ça me fait plaisir d'être avec vous. D'ailleurs, peut-être pour commencer, pour détendre un peu tout le monde, on peut la faire tous ensemble, ça vous va ou pas? Ça serait vraiment cool. En fait, il y a une mélodie, ça fait ça. Et là, ça change, ça descend. On essaie encore? Pour avoir une bonne version. Vous allez pouvoir faire du montage dedans ou non?
Non. Et puis à un moment, il faut que vous nous parliez. Vous ne pouvez pas que vous planquer derrière un piano.
Alors, essayez une fois, juste tout ça, mais un peu fort, toujours. Trois.
C'est quoi l'histoire de ce
Merci,
morceau,
hein,
Ibrahim Malouf?
Red and Black Light, c'est... c'est tout l'album, en fait, est dans une sorte de continuité avec tout ce que j'ai pu faire précédemment dans mes albums d'avant, et qui traite en grande, grande majorité du rapport qu'on entretient avec la réalité, la vérité et la réalité, les différentes versions de la réalité et les différentes versions de la vérité. Et Red and Black Light, c'est la lumière rouge, qui, peut-être certains le savent, rend plus beau. Et la lumière noire, qui, vous savez, c'est cette lumière qui ressemble un peu à ça, d'ailleurs, là-haut, là, qui est une sorte de lumière un peu violette, qui, d'un seul coup, ne met en valeur que tout ce qui est blanc. Et donc, tout ce qui est supposément blanc pur. Voilà, donc, c'est ce rapport avec la réalité que j'avais envie de traiter avec cet album-là. Et c'est un peu la continuité des albums comme Illusion, que j'ai pu faire précédemment, voilà.
Pourquoi n'avez-vous pas voulu venir avec votre trompette?
D'abord parce que si j'avais dû illustrer tout ce que vous m'avez demandé, enfin, je sais que dans cet entretien il va y avoir un vrai travail d'illustration par la musique, et que la trompette seule c'est juste mélodique, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de rythme, c'est pas un instrument de percussion comme le piano. Donc je trouvais ça un peu pauvre. Et puis parce que je commence à m'en détacher peu à peu, parce que je voudrais vraiment que dans quelques années, le divorce soit acté.
Pourquoi vous voulez divorcer d'une
Alors,
trompette
je commence de temps en temps à faire quelques infidélités. Pourquoi ? Parce que j'ai donné suffisamment pour cet instrument, qui n'est pas mon instrument de passion. J'ai fait beaucoup, beaucoup de trompettes depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé à 7 ans. Donc, si j'arrête comme j'ai prévu, ça fait des années et des années que j'en parle, mais j'ai prévu d'arrêter à la fin de mes 40 ans. J'ai même écrit il y a quelques années une symphonie que j'ai appelée Point 33. J'ai écrit ça il y a peut-être 7-8 ans. Point 33, c'est parce que à la fin de mes 40 ans,
donc 41 ans, ça fera 33. Donc en novembre 2020, c'est ça ?
Si vous voulez.
C'est vous qui l'avez décrété. Voilà, moi, ça. Je ne veux pas.
C'est ça, mais je fais participer tout le monde.
Alors, racontons cette histoire, votre histoire avec la trompette. C'est le point de départ, en effet, de votre histoire musicale. Mmh. Et ça renvoie évidemment à votre père et au Liban. Racontez-nous.
Alors, c'est, oui, plus mon père quand même. C'est le rapport que j'avais avec mon père. Moi, la trompette, j'ai joué de la trompette parce que mon père était, et toujours d'ailleurs, mais un peu moins maintenant avec l'âge, mais c'est quelqu'un qui était extrêmement sévère et droit. Donc il fallait toujours, c'était pas militaire mais presque, à la maison il y avait quelque chose de très très strict comme ça. Et quand je prenais des cours de trompette avec lui, et moi je suis papa, donc je me rends compte d'autant plus aujourd'hui, ma fille a 8 ans, donc elle a l'âge à peu près que j'avais quand j'ai commencé à jouer de la trompette, je me rends compte à quel point c'est compliqué et difficile de passer du temps avec nos enfants, parce qu'on a des métiers, qu'on a des vies chargées, etc. Mon père était un concertiste, trompettiste, à la fois prof, concertiste, etc. Et malgré tout ça, à partir de l'âge de 16 ans et jusqu'à ce que j'ai à peu près 14 ans, il prenait entre une demi-heure, trois quarts d'heure et une heure par jour de temps avec moi, quoi qu'il puisse se passer dans sa vie. J'avais entre une demi-heure et une heure de cours à ses côtés. Et pendant cette une demi-heure et heure de cours, il était vraiment super. Il était hyper gentil, très encourageant, très positif. Et du coup, j'avais envie de continuer parce que j'avais un autre papa, du coup, à ce moment-là, qui était beaucoup plus sympa. Et c'est pour ça que j'ai continué à jouer de la trompette aussi longtemps.
Au conservatoire, avec toute la rigueur que cela implique, les cours de solfège.
En fait, il m'a même préparé, lui, au conservatoire de Paris. Moi, je suis rentré au conservatoire de Paris à 17 ans. J'avais jamais fait de conservatoire avant. On n'avait jamais pris un cours de solfège. Il m'a vraiment, si vous voulez, il m'a préparé, il m'a offert un métier. Ouais. À 17 ans, j'ai ouvert les yeux, comme on ouvre les yeux quand à la fin de l'adolescence, et j'avais un métier entre les mains.
Est-ce que veut dire que d'une certaine manière, il vous a empêché de vous poser la question de la vocation. En tout cas, pas avec cet instrument-là.
Oui, sur ça, sur l'instrument, ouais, vraiment. Mais après, la chance que j'avais, c'est que ma mère, pianiste,
fan de chansons italiennes, hein. Grecques, sud. Non, mais en tout cas, un psychanalyste se régalerait de ce que vous êtes en train de nous raconter.
Je suis complètement conscient de ça.
Il fallait tuer le père et sa trompette pour rejoindre la mère et son piano.
Vous avez tout compris.
C'est assez
comme
facile.
Quoi, voilà. Comme quoi, c'est pas si compliqué que ça. Bah, c'est bon, voilà, l'émission est terminée, merci beaucoup.
Racontez-nous justement ce moment où vous tuez le père et la trompette pour vous mettre au piano. Vous avez appris le piano tout seul ?
D'abord, je crois qu'il y a un livre, un film aussi, Comment j'ai tué mon père. Ça ne se tue pas en une fois, hein, papa.
Il y a beaucoup de littérature, oui, sur la
Voilà, il y a beaucoup de littérature. Ça ne se tue pas en une fois. Les choses se sont faites par étapes. Il y a la rupture physique, le fait de quitter. Il y a la rupture psychologique et la rupture artistique aussi. Il y a beaucoup de choses. Quand, par exemple, je suis rentré au conservatoire de Paris, ça me suffisait pas. Alors que pendant toute mon enfance, mon père me disait, si au moins tu rentres pas au conservatoire de Paris, c'est que t'as raté ta vie. Et donc, ça me suffisait pas. Il fallait que je lui montre que je pouvais aller plus loin que lui, qui avait lui aussi donc été au conservatoire de Paris et donc il estimait que c'était le minimum. Il a fallu que je fasse autre chose. Donc je suis allé dans ce qu'on appelle les concours internationaux, qui sont un peu l'étape au-dessus. Et c'est en gagnant ces concours-là que j'ai, d'une certaine manière, dépassé son chemin à lui et donc que je me suis complètement émancipé.
Mais vous aimiez ça, passer des concours ?
Non, je détestais ça. Non.
Mais vous les réussissiez, réussissiez malgré tout.
Oui, mais parce que du coup, j'étais détaché. Vous voyez ce que je veux dire ? J'étais pas, j'y allais un peu comme une sorte de. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a pas très longtemps, j'étais avec ma fille, on est allé voir un spectacle de dauphins. Et on est allé voir le monsieur qui s'occupait des dauphins, comme ça, juste pour que ma fille puisse écouter un peu son discours sur là-dessus. Et je lui disais, alors, il faut faire quoi dans sa vie pour travailler avec les dauphins? Je regardais fièrement ma fille en me disant, oh là là, ça va la passionner. Il a répondu, il faut surtout pas les aimer trop. Et donc, ça m'a choqué, mais en même temps, ça m'a rappelé d'autres choses. Donc, c'est un peu la même chose, vous voyez. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la trompette, mais je l'aimais pas trop. Je l'aimais juste à sa juste mesure. Et c'est pour ça que du coup, voilà, à 41 ans, ça fait 33 ans que j'aurais joué de la trompette. C'est bon, 33 ans. C'est pas mal quand c'est même, vous à 33 voyez. Ans.
Vous l'avez enseigné aussi, la trompette. Ouais. Vous avez d'abord été professeur de musique au conservatoire d'Aubervilliers. C'est aussi une expérience que vous avez détestée ?
Non, mais je déteste rien du tout, attention. Hein. Non, j'aime beaucoup la trompette, mais il y a une différence entre aimer, adorer et véritablement choisir. Moi, dans mes élèves, justement, à Aubervilliers-la-Courneuve ou ailleurs, d'ailleurs, parce que j'en donne depuis l'âge de 17 ans des cours. Et j'ai jamais arrêté d'ailleurs, j'aime beaucoup ça. Mais j'ai des élèves qui venaient me voir, ou alors je me rappelle de tout petit. Ah oui, tiens, je me rappelle maintenant. Et une petite fille qui s'appelait Éléonore, qui avait 6 ans. Et elle, c'était une révélation pour elle. C'est-à-dire que ni son père ni sa mère ne jouaient de trompette, il n'y avait pas de trompette dans la famille. Juste un jour, elle a vu ça. Elle a dit, moi, je veux jouer de la trompette.
Et ça, ça vous plaisait?
Ben, du coup, je trouvais que ça avait du sens que je leur transmette ce que je savais. Puisque eux allaient l'utiliser à beaucoup
meilleur
escient, voilà ce que je cherchais, ce qu'on pouvait le dire, à meilleur escient. Et que moi je savais qu'un jour j'allais arrêter. Donc ça fait longtemps que je sais que je vais arrêter, mais c'est juste que je repoussais la date à chaque fois. Et là ça fait genre peut-être 7-8 ans que je me suis décidé.
Comme un fumeur de cigarettes. Et le piano alors.
Demain j'arrête.
Histoire avec le piano. Comment vous apprenez le piano? Pas du tout de façon académique. Pas avec votre mère. Comment?
J'ai jamais appris à jouer du piano. J'ai appris tout seul en autodidacte. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs sauvé. C'est pour ça que j'aime la musique aujourd'hui. Si j'avais pas eu cet échappatoire là, je pense que je serais comme une sorte de machine à jouer de la musique classique à la trompette, mais qui n'aurait pas vraiment beaucoup plus de choses à dire. Et c'est vraiment le piano que j'ai commencé à tapoter comme ça quand je devais avoir 3-4 ans. Et au fur et à mesure, à force de tapoter et de faire n'importe quoi, j'ai fini par faire un peu moins n'importe quoi. Et c'est vraiment, ça a été mon apprentissage tout seul, sans code. Je sais pas, si vous mettez par exemple une partition de piano, je sais pas la lire.
Alors même que vous avez fait beaucoup de solfège au conservatoire.
Alors j'ai jamais fait de solfège moi par contre, même au conservatoire.
Il n'y a pas d'obligation.
Paris. Non, il m'est arrivé un truc trop bizarre, mais je sais pas si c'est bien de le remplir, de le raconter.
Ouais, c'est pas, allez-y, ça a
en
l'air
fait,
bien.
En fait, parce que j'ai fait un lapsus, j'ai dit remplir au lieu de raconter, mais en fait c'est parce que dans ma tête j'ai l'impression de devoir encore une fois remplir une mission de pédagogique, c'est-à-dire de jamais parler de ça. Ça fait longtemps, vraiment, je crois que j'en ai parlé 2 ou 3 fois dans ma vie, et je crois jamais publiquement. En fait, j'ai été exempté de solfège en entrant au Conservatoire de Paris, et je sais pas si c'est par erreur, ou si c'est vraiment parce que ce que je disais était vrai. J'ai essayé plusieurs fois de demander les copies de cet examen. Vous savez, quand vous rentrez au Conservatoire de Paris, vous avez une épreuve de solfège. Moi, n'ayant jamais pris de cours de solfège, je me suis dit, c'est quand même idiot, je vais rater cette entrée au Conservatoire de Paris à cause de ce petit test de solfège. Et donc j'ai bouquiné pendant 2-3 semaines, j'ai essayé de comprendre comment on disait les trucs que moi je connaissais mais que je savais pas dire. Et donc je suis allé faire l'examen et j'avais l'impression d'avoir complètement raté, mais j'ai dû avoir un correcteur un peu plus tolérant que les autres, je sais pas. Et donc ils m'ont mis une excellente note. Je me rappelle, j'ai eu 92,5 sur 100.
Pas mal.
Ce qui était un peu fou pour quelqu'un qui avait jamais fait de solfège. Mais par contre, c'était une grande leçon pour moi. J'ai compris beaucoup de choses par rapport à ce qu'était le solfège. Et aujourd'hui, j'essaie de transmettre ça, justement, en donnant des cours d'improvisation, puisque j'ai appris tout mon solfège via l'improvisation. Et donc, j'ai jamais fait de solfège. Voilà, c'est idiot.
Mais du coup, j'en viens au piano, à ce piano que vous entendiez chez vous petit, puisque votre mère était pianiste. Est-ce qu'il y a une petite, comme ça, Madeleine de Proust, petit air, qui pour vous est la musique au piano de l'enfance?
Pas vraiment. Pour être honnête, j'écoutais beaucoup ma mère jouer. En fait, je reproduisais ce que j'entendais.
Qu'est-ce par exemple, qu'elle jouait?
Mais alors, je sais pas les lire, même si vous me donnez. D'ailleurs, j'ai une chouette anecdote au Conservatoire de Paris par rapport à ça. C'est que je me suis fait. Il y avait des cours de piano deuxième instrument. Et je me disais, moi, au Conservatoire de Paris, quand je suis rentré donc en trompette, je me disais, tiens, c'est parfait. Cours de piano deuxième instrument. Moi, qui sais un peu tapoter au piano, je vais pouvoir me perfectionner. Et je me suis fait virer au bout de 3 cours. Parce que la prof pensait que je me moquais d'elle en lui disant que je savais pas lire de partition de piano. Mais vraiment, c'est véridique. Hein. Donc, par exemple, quand j'étais petit, je jouais des choses de Schumann, de Chopin, etc., sans savoir les partitions, mais juste d'oreille. Mais par contre, je les jouais mal et toujours dans la même tonalité.
Et aujourd'hui, vous les jouez bien?
Non.
Ben, je sais pas, essayez.
Non, mais par exemple, non, je vous donne. J'écoutais ma mère ou ma sœur jouer ça. Et je le jouais d'oreille. Mais après, une fois que j'arrivais sur... vous savez, je connais pas. J'ai jamais cherché vraiment. Mais vous voyez, c'est ce genre de petits détails. Et j'essayais de trouver des suites différentes quand je savais pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Et ça donnait quoi?
Si je fais... Oui, bon, je le joue mal, mais c'est à peu près la mélodie que tout le monde connaît. Ouais. Et ben, au lieu de faire, je crois qu'après c'est ça, mais j'ai jamais voulu le jouer. Quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je trouvais ça moche. Du coup, je disais à Beethoven, excuse-moi. Et du coup, j'essayais autre chose. Je faisais ça, par exemple. Donc, ça terminait. Et donc, je faisais. Je continuais. Bon, oui, donc je trouvais, je comblais les
et Beethoven allait se rhabiller.
Non, mais c'est, du coup, je m'amusais comme ça, en fait, vraiment. Et du coup, c'est ça qui m'a appris, en fait, à improviser, à inventer des nouvelles musiques, du coup.
Vous avez raconté comment petit, en fait, vous étiez obligé, contraint à jouer du baroque toute la journée et en même temps, vous écoutiez d'autres sons, d'autres sonorités. Et puis un jour, vous avez rencontré le jazz.
Alors, avant de rencontrer le jazz, j'ai rencontré Michael. Michael Jackson. J'ai découvert Michael à 8 ans. Donc, l'album Bad, qui était complètement fou. Et produit par Quincy Jones, avec qui je commence à travailler d'ailleurs maintenant. Donc c'est marrant, comme la boucle est bouclée.
Il y a une cohérence.
Une cohérence, voilà. Et en fait, il y a eu ce flash d'un seul coup de pop complètement dingue avec quelqu'un qui dansait comme un fou, qui créait des sons, etc. Alors que moi, en effet, j'étais sur de la musique baroque, la musique arabe, classique, etc. Donc ça m'a fait un choc à 8 ans. À la maison, on écoutait Abdel Wahab, Kulsoum, Farid Al-Atrash, Saad Mohamed, ou alors Bach, Mozart, Beethoven, etc. Donc c'est vraiment d'un seul coup, bam, Michael Jackson. Ça faisait un peu un choc. Et puis en effet, quelques années après, Miles, l'album Kind of Blue, où j'ai découvert qu'on avait le droit de jouer de la trompette un peu différemment, avec un son plus feutré. Et comme j'aimais beaucoup jouer comme ça chez moi, mais que c'était pas trop comme ça qu'il fallait jouer, puisque la musique classique, c'est des sons clairs, forts, etc. Donc j'avais été un peu frustré à cette époque-là. Et c'est là que j'ai commencé à bifurquer, à blasphémer tout l'enseignement que j'ai eu. Et puis après, à partir de là, j'ai monté le groupe Phara.
Alors qui avec un mélange... une couleur jazz, orientale, à la fois saxo, guitare, et puis aussi des instruments venus d'Orient, le bouzouk et le ney.
Oui, exactement. Et puis, mais bon, c'était une expérience assez courte, mais qui a été extrêmement constructive. On a fait quelques petits concerts et j'ai rencontré un homme qui aujourd'hui n'est plus de ce monde, mais toujours beaucoup, beaucoup dans ma mémoire, qui s'appelle Christophe Trahan, qui nous a quitté beaucoup trop jeune, qui était un jeune réalisateur et qui a fait un documentaire sur moi alors que personne ne me connaissait, que j'avais encore rien fait de ma vie.
Ça, c'était en quelle année?
2004. Et à partir de là, ça m'a donné des ailes parce que c'était quelqu'un qui, c'est une sorte de thérapie. Il a fait un documentaire qui s'appelle Souffle avec un point d'exclamation à la fin, que d'ailleurs, je vous encourage à aller découvrir, mais qui n'a rien à voir avec ce que aujourd'hui je fais et ce que je suis, mais qui à l'époque a été une vraie thérapie. C'est la première fois que quelqu'un me posait des questions sur mon travail, sur ma vie ou sur ce que je faisais à l'époque, etc. Et donc ça a été très très positif comme rencontre. Et puis après voilà, à partir de là, j'ai commencé à vraiment à me chercher de manière plus sereine, plus saine aussi.
Vous êtes né au Liban, j'ai dit tout à l'heure en 1980, et puis assez vite vous êtes venu en France. Le Liban, c'est un pays mosaïque. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez un musicien mosaïque?
Ah, j'ai jamais pensé... oui, pourquoi pas.
Ça vous va?
C'est chouette, oui. Mais la mosaïque, c'est... Il y a quelque chose de... Ça, c'est pas du patchwork, quoi. Moi, ce qui m'embête souvent avec ces définitions qu'on donne, que ce soit à ma musique ou à d'autres musiques que je respecte beaucoup, qui sont toujours des sortes de mélanges culturels, etc. Il y a toujours une définition un peu patchwork. Alors, c'est pas contre vous, évidemment, mais
je le prends pas mal.
Non, mais le côté un peu, vous êtes un musicien classique qui joue aussi du jazz et vous mélangez avec l'Orient et le rock, etc. Et à ce coup, on a l'impression que c'est de la superposition. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que j'ai faite avec Phara où j'avais voulu essayer. C'était mes premiers essais, donc j'étais un peu jeune et je cherchais. Et j'ai superposé des choses au lieu d'essayer d'aller trouver vraiment où était la source qui était en elle-même de toute façon déjà inspirée de plusieurs cultures.
Une mosaïque, c'est pas comme un patchwork parce qu'il y a une composition.
Donc c'est pour ça que j'aime bien finalement l'idée de la composition via la mosaïque. Ça me plaît beaucoup, je vais la reprendre.
J'en suis flattée. Voilà. On a le sentiment que pour vous, tout a été relativement facile finalement, en tout cas de l'extérieur, quand on s'intéresse à votre biographie. Très vite, il y a ce premier album et puis très vite, ça marche. Très vite, il y a la notoriété. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous l'avez vécu? Et est-ce que vous savez expliquer pourquoi pour vous, ça semble si simple finalement?
C'est tout sauf facile en fait. Hein. C'est tout sauf simple. Non, c'est plutôt mon métier qui exige qu'on ne montre que les belles choses.
Non, mais le fait est que ça a marché très vite.
Ah, pas du tout. Ben non, j'ai commencé à faire des concerts à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire qu'entre l'âge de 7 ans et l'âge de 8 ans, j'avais des cours tous les jours, c'est-à-dire 365 cours. Sachant que dans un an, Il y a combien de cours dans un conservatoire à peu près? Il y en a 40, puisqu'il y a les vacances scolaires, même moins, 38. 38, donc on met combien d'années pour faire à peu près 365 cours?
Oh, je sais pas.
10 ans, un peu moins de 10 ans. Donc j'ai fait en un an ce qu'on apprend en 10 ans. À l'âge de 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans, je commençais déjà à faire des concerts avec mon père. Non, ça a mis très longtemps, je vous assure. Ça... Et puis c'est pas grave, ça me dérange pas du tout.
Est-ce
je
veux qu'on dire peut dire qu'à partir du moment où il y a l'émancipation, ça va vite? C'est allé vite?
Même pas. Même pas. Moi, je travaille très très vite et beaucoup. Mais je trouve pas que ça va vite, vraiment.
En tout cas, on dit souvent de vous que vous êtes un boulimique, un hyperactif. Alors, on cite des chiffres, 15 albums entre 2007 et 2017, 4 victoires de la musique, des Césars de meilleure musique de film à plusieurs reprises. Et puis, vous recevez des décorations, chevalier de l'ordre du mérite, des arts et des lettres. Il y a une boulimie chez Ibrahim Malouf ?
Non, mais les prix, on me les offre. Moi, j'ai... Ouais. Donc, ça fait plaisir.
Ça vous fait plaisir ?
Mais c'est pas moi qui... Voilà. Alors, créer, ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Inventer, tout le temps, être tout le temps dans l'invention. Dans, j'ai la chance de faire un métier qui est basé sur une matière première que je crée moi-même. Donc je ne dépends de personne, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est à la fois un sentiment un peu d'instabilité qui est assez excitant finalement, parce que c'est stimulant. Mais en même temps, c'est fou parce que vraiment, je passe mon temps à inventer la bande originale de ma vie, musicalement, et éventuellement une musique qui accompagne d'autres vies. Et donc, c'est génial, enfin, c'est super jouissif et c'est une chance. C'est pour ça que je travaille autant aussi, parce que je sais qu'un jour, ça peut s'arrêter.
Avant de parler en effet de cette séquence de votre vie, quand vous mettez votre talent au service d'autres talents, parlez-nous d'abord de vous, de vos créations à vous et de la solitude de cette création. Comment ça se passe chez Ibrahim Malouf quand surgit l'idée d'un morceau ou d'un album ?
Il y a plusieurs phases, mais ça commence toujours par... On a le droit de dire des gros mots ou pas ?
Ouais.
Ça commence toujours par un énorme bordel. Si je devais visualiser musicalement ma création, ça commence par ça. Voilà, ça veut rien dire. Mais en même temps, quand on fait ça, il y a toujours des éléments qui nous d'un seul coup, nous attrapent l'oreille et qui nous donnent envie d'aller plus loin. Par exemple, là, il y a cette note. Là, qui a résonné un peu plus vers la fin. Bah, rien m'empêche de partir d'ici, d'essayer des choses. Je ne sais pas du tout si c'est intéressant. A priori, je ne crois pas. Et après, je rajoute des éléments. Donc... Ce n'est pas beaucoup plus intéressant. Et puis, au fur et à mesure, j'essaie de faire quelque chose qui finisse par me toucher et dont je me souvienne. Parfois, c'est très tonal, comme ça. Voilà. Parfois, pas du tout. Et voilà. Et je cherche. Et je passe ma vie à chercher.
C'est fatigant ?
Pas du tout. C'est comme respirer. Enfin, je me sens pas du tout unique par rapport à ça. Enfin, je pense tous les créateurs, tous les peintres, tous les photographes, tous les journalistes qui ont des idées, tous les...
C'est pas pareil, journaliste.
Si. Vous avez plein d'idées tout le temps, vous écrivez, je sais, parce que dans ma famille, presque tout le monde est journaliste. On a tous ce truc. Mais alors, par contre, pour le coup, vraiment, je pense vraiment qu'on a tous ça. Hein, même, tout le monde a ce truc-là, en fait. Hein. Mais avec le temps, je ne sais plus qui est-ce qui disait cette phrase que j'aime. Ben, je ne sais vraiment pas la dire comme il faut, mais quand on est créateur. Et l'éducation nous apprend à ne plus le devenir.
Donc, c'est très français ou c'est universel ?
Non, c'est partout dans le monde, ça. Après, il y a quelques cultures où on va encourager plus les jeunes à s'exprimer, etc. Mais je veux dire, il y a quand même quelque chose d'un peu cadré où on nous apprend finalement que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait avec la trompette. Et puis heureusement, j'avais le piano à côté qui me disait, mais en fait, en vrai, c'est autrement qu'il faut faire. Voilà.
Donc, instrument de liberté.
Voilà, complètement. Le piano, c'est vraiment l'instrument avec lequel j'ai construit ma liberté, vraiment. Ouais.
J'aimerais bien que vous nous parliez aussi de votre rapport à la scène. Tous les gens qui vont vous voir à tous vos spectacles disent souvent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects dans vos moments de scène. D'abord, vous aimez faire participer les gens, vous aimez les faire chanter, vous aimez les faire danser. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Et puis... Il y a des pauses et des moments qui sont plus métaphysiques, presque un peu mystiques parfois. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous vos concerts et qu'on retrouve aussi. C'est votre aisance incroyable et ce plaisir inouï qu'on sent, qui est vraiment perceptible quand on va vous voir.
Mais un concert, c'est... On se raconte. en fait. Hein. C'est comme ce qu'on est en train de faire ici, mais sans les paroles et avec la musique. Et je pense que les émotions parlent directement au cœur des gens et ne passent pas par l'intellect. Et donc, du coup, on est en phase. Je dis souvent que mon public, enfin le public qui vient voir mes concerts, c'est drôle de dire mon public, il m'appartient. Non, mais
ça fait
public,
un peu de Johnny Hallyday.
Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu de Johnny.
Je t'aime.
Paix à son âme.
Mais non, mais en fait, il y a un côté un peu partage qui va au-delà juste des mots, ouais. En fait. Et donc du coup, je me sens proche de tous les gens qui viennent me voir, même si on peut avoir par exemple des convictions. Différentes, voire même radicalement opposées, que ce soit sur la politique, sur les religions, sur nos croyances de la vie, sur nos valeurs, etc. On peut être très différent là, mais on va partager un moment unique qui fait qu'on va s'entendre. Et donc c'est pour ça que le concert, il y a intérêt à aller viser juste sur ça. Et donc j'essaie de raconter des choses émotionnelles qui nous parle à tous. Alors parfois c'est danser, se lâcher, faire n'importe quoi. Parfois ça peut être quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et au-delà des croyances religieuses, il y a des choses qui nous unissent spirituellement. Et moi par exemple, le jour où j'étais tout seul en train de faire ça. Voilà, le jour où j'ai découvert cette petite ligne. C'est pas grand-chose, hein, on est d'accord. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. Moi, le jour où j'ai découvert juste cette petite ligne. Qui ne m'appartient pas du tout, hein, mais que juste un jour je suis tombé dessus, ben j'ai passé des heures à la jouer comme ça, sans mélodie, sans rien. Et je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe dans cette. Voilà.
Et vous avez la réponse ?
Ben, j'ai pas la réponse, mais c'est le morceau que les gens préfèrent dans tout ce que j'ai composé. Donc je me dis que ça devait pas être complètement pourri. Vous voyez, c'est quand même pas grand-chose. Hein.
Voire même que, je sais pas, ça réveillait quelque chose.
Alors de temps en temps, j'ai fait une virgule, je faisais ça. Et puis je reprenais. Là, je vous jure, le jour où j'ai fait ça, j'ai passé des semaines et des semaines à ne jouer que ça. Voilà, et ça. Et j'avais 13 ans, 13-14 ans, et ça donnait un morceau que j'appelais Beyrouth et qui est construit vraiment sur ça. Et en fait, il y a vraiment une logique émotionnelle dans laquelle moi je rentre et je pense qu'elle est partagée. Je pense qu'elle peut être partagée. Donc voilà, je rentre un peu dans ces choses-là et c'est pour ça que j'aime être sur scène du coup.
C'est drôle qu'on ait parlé malgré nous de Johnny Hallyday tout à l'heure parce qu'en fait, vous faites les mêmes salles que lui, vous remplissez des zéniths. Vous réussissez des publics gigantesques avec de la musique instrumentale.
Je pense toute proportion gardée, s'il vous plaît.
Non, mais
toute proportion gardée.
Vous ne jouez pas que au New Morning, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais
tout
c'est,
ça uniquement c'est, de la musique instrumentale.
Ça, c'est la cerise sur le gâteau. La chance d'être un peu plus populaire qu'un musicien qui plus normal, entre guillemets. La chance d'avoir cette notoriété, etc. Parce que je l'assume, hein, je me cache pas.
Mais devenir connu, atteindre cette notoriété-là juste avec de la musique instrumentale.
Oui, mais
pas beaucoup des gens comme vous.
Alors oui, mais alors ça, par contre, c'est choquant. Moi, je trouve ça injuste et choquant.
C'est un fait.
Mais pas pourquoi. On peut en parler à la radio.
Ouais. Allons-y.
Mais parce que c'est de la faute des radios pour moi. Parce qu'on pense que les gens ne sont capables que d'aimer la chanson. Que s'il n'y a pas de paroles, alors les gens ne vont pas chanter du coup derrière. Alors du coup, ça marchera pas. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, la chanson a prouvé depuis longtemps. Que ce que les gens préfèrent dans la chanson, c'est le moment où tout le monde fait la 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 la. Donc il y a pas de parole sur la la la. Mais en fait, non mais vraiment, il y a un truc avec le rapport entre la chanson et la télé et la radio. Et du coup, les maisons de disques, voilà. Alors moi, je me bats pour que la musique instrumentale ait un peu sa place. Donc pour ça que j'essaie de faire en sorte que ma musique soit un peu plus accessible et donc écoutée un peu par plus de monde. Donc on a eu la chance il y a 2 ans de faire un Bercy. Mais personne n'avait jamais fait ça avant, en instrumental. Personne. Même, on me dit toujours, vous êtes le deuxième après Miles Davis. Je dis, non, c'est pas vrai. Même Miles Davis, il l'a pas fait. C'est un mensonge.
Il a pas fait Bercy.
Non, il a fait un concert à Bercy. Il y avait Bobby McFerrin, lui, et le Bill Evans Orchestra. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était pas tout seul à faire Bercy. C'est vraiment la première fois. Je le dis avec beaucoup de fierté. C'est pas du tout un manque d'humilité ou de l'orgueil. Hein. Je dis simplement, ce n'est pas normal. Je trouve ça choquant. Il y a plein de musiciens qui mériteraient d'avoir. En fait, si on nous mettait à la radio, comme on le fait avec Despacito ou tous ces trucs-là, si on nous mettait à la radio 40 fois par jour sur Énergie ou sur je sais pas quelle radio, Europe 1, sur même France Inter ou je sais pas quoi, si on nous mettait autant à la radio, ouais. Et ben les gens nous écouteraient et on ferait des Bercy et alors du coup vous intervieweriez comment il s'appelle là, les jeunes d'aujourd'hui, Kenji Girac par exemple, vous avez l'interviewé en lui disant alors vous êtes content d'être invité à France Culture aujourd'hui, c'est difficile pour vous, oui.
Je ferais Bercy, on va y réfléchir. Elle est dans la salle. Alors, vous n'aimez pas tant que cela chanter. Je trouve passionnant ce que vous êtes en train de nous dire sur la relation entre la télévision, la radio et la chanson. Pour autant, vous accompagnez merveilleusement bien, vous composez merveilleusement bien pour des chanteurs. Sting, Amadou et Mariam, Mathieu Chédid, Juliette Gréco, Vanessa Paradis, Vincent Delerme, Grand Corps Malade. Comment elle se passe cette rencontre-là avec un chanteur ?
Bah, j'évite de leur dire tout ce que je viens de dire déjà pour commencer.
Ouais, c'est mieux.
Non, mais j'ai une passion pour la chanson et c'est pour ça que du coup j'en parle avec autant de passion aussi. Mmh. C'est que j'aime la chanson vraiment, véritablement. Et j'ai commencé à travailler avec des chanteurs très très rapidement. Des chanteuses et des chanteurs. Lassa Dessella, qui était un peu ma marraine quand j'ai commencé, qui était une chanteuse mexicaine, mélange américaine et mexicaine. Et qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et je l'ai rencontré grâce à un autre instrumentiste, d'ailleurs, qui s'appelle Vincent Segal, violoncelliste extraordinaire. Et voilà. Et puis, c'est un vrai rapport de complémentarité que j'ai avec la chanson. J'adore composer pour la chanson. J'adore travailler avec des chanteuses et des chanteurs. J'adore ça, contrairement. Alors,
racontez-nous par exemple comment vous travaillez avec une Vanessa Paradis. Comment ça se passe?
En fait, ça dépend les rencontres, en fait.
Mais elle, comment vous l'avez rencontrée?
Via Mathieu Chédid, mais ça c'est pas forcément la collaboration la plus pertinente.
Pourquoi ?
Parce qu'en studio, je suis venu, j'ai joué 2-3 trucs à la trompette, puis finalement ils les ont pas gardés, donc c'était pas non plus.
C'est un peu décevant en effet. Alors quelle est la collaboration la plus pertinente que vous ayez eue avec un chanteur ou une chanteuse ?
Ça c'est sûr, Mathieu Chédid avec qui on est devenu presque frères. Sting, ça a été passionnant de travailler avec Sting. En vrai, il y en a plein. Moi, mon rêve, c'est de réaliser un album de rap pour quelqu'un.
Ça ressemblerait à quoi au piano, un album de rap d'Ibrahim Malouf ?
Oh, ce serait pas au piano déjà.
Mais si, imaginons que c'est au piano, ça donnerait quoi ? Allez, faites un effort.
je ne sais pas faire de. Je ne sais pas rapper.
Mais vous savez improviser.
Est-ce que quelqu'un sait rapper dans cette salle ?
Je crois personne.
Non, on peut faire du rythme, par contre, ça c'est sûr. Par exemple, je cherche.
Ouais, allez-y.
Bon ben voilà, qu'est-ce qu'il veut rappeler là-dessus ?
Il y a des candidats.
Non mais après, blague à part, je pense que si, en fait, l'avantage du piano, c'est que c'est comme un petit orchestre, en fait, et ça permet du coup de créer assez rapidement des choses. Et je voulais ajouter une chose, c'est que je parle de rap parce que je trouve ça assez fascinant le rap de par la créativité que ça offre. C'est-à-dire qu'on peut tout faire dans le rap, faire de la musique classique, des musiques ethniques, des musiques de jazz. En travaillant avec Oxmo Puccino, par exemple, pour moi, c'est un des meilleurs jazzmen. Pourtant, c'est un rappeur à la base. Et pour moi, c'est du jazz ce qu'il fait. Et donc, en fait, on peut vraiment se balader dans tous les styles de musique. Le sample permet d'amener de la musique classique, de musique de tous les styles. Donc, c'est en ça que ça me passionne. C'est comme un laboratoire, le rap. Comme une cuisine avec plein d'ingrédients. On peut inventer plein de choses. Chose que beaucoup d'autres musiques ne permettent pas.
Alors, dans votre cuisine, il y a aussi le cinéma, puisque vous composez souvent des musiques pour le cinéma, notamment pour le biopic sur Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert en 2015. Vous avez été récompensé par un César. Même question, comment on rencontre, comment on travaille sur un scénario, comment on échange avec le réalisateur ? Est-ce que dans toutes ces activités que vous avez, ça fait partie de celles auxquelles vous tenez ?
Ah, j'adore le cinéma et la musique de film. Ben, c'est passionnant parce que ce soit avec le réalisateur quand on discute ou quand je lis le scénario, etc., il y a des thèmes qui viennent. Alors parfois, le thème arrive direct et on sait que c'est le bon. Enfin, en tout cas, on pense que c'est le bon.
Sur Yves Saint-Laurent, par exemple, vous vous souvenez de la musique ?
Ah, bien sûr.
Alors allez-y.
Ah ben, Yves Saint-Laurent, puis ça s'est passé très très rapidement. Tout de suite, ce thème-là est venu. etc., etc. En fait, ce thème-là est arrivé très, très rapidement quand j'étais en train de lire le scénario. Et puis, je l'ai proposé rapidement au réalisateur qui a flashé direct dessus. Voilà.
Et vous savez mettre des mots sur ça ? Pourquoi est-ce que Yves Saint-Laurent vous inspire ces notes-là ?
J'ai fini par trouver des raisons, mais je ne sais pas si c'est les bonnes. On finit toujours par trouver des excuses ou des raisons, mais on n'est jamais sûr que c'est vrai. Bah, en fait, ce thème-là, par exemple, je voulais pour Yves Saint-Laurent, qui était un personnage à la fois grand et représentait la France dans le monde entier à travers la haute couture, et en même temps, c'était quelqu'un d'extrêmement timide et fragile et fermé. Donc, je voulais pas un thème... Vous voyez, ça veut pas,
ça aurait été
dire.
Décalé, oui.
Voilà, je voulais pas non plus un thème sombre. Vous voyez, je voulais pas des trucs comme ça. Je voulais quelque chose d'à la fois joyeux, tendre, fin, délicat, comme lui, il parlait très lentement, comme ça, avec beaucoup de fragilité, mais en même temps grandiose. Et donc, je trouvais que ça... Il y avait quelque chose d'un peu délicat où je pouvais jouer sur la...
Une volupté.
Et je peux jouer sur la douceur, mais je peux aussi donner de l'amplitude. Et je peux grandir la chose et ça. Donc voilà, ça, c'est parti de ça, et ce thème est arrivé comme ça. Je me dis, c'est ce qui le représente le mieux musicalement. Voilà.
Alors, vous n'êtes pas non plus un artiste hors sol qui vivrait enfermé dans ses studios, en tournée. Je sais que vous êtes aussi quelqu'un qui vit l'actualité, qui vit son époque. Par exemple, je sais qu'en 2015, vous avez joué pour les obsèques de Tinius après l'attentat à Charlie Hebdo. Je sais que vous avez participé au concert de réouverture du Bataclan en novembre 2016 avec votre ami Sting. Pour Tinius, par exemple, qu'est-ce que vous avez joué ?
Ah, pour Tinius, j'ai pris la trompette.
Pourquoi ?
Ben je sais pas. En fait, le dernier concert que Tinius avait vu, c'était le mien. Et donc, c'était un concert de trompette. Donc, sa famille m'avait demandé de poursuivre le concert jusqu'à ce moment de deuil qui était intense et pour eux et pour la France. Donc, je me suis dit que ça avait du sens de prolonger les notes que lui avait entendues quand j'étais à la trompette à ce moment-là. Voilà.
Et être au Bataclan, ça avait quel sens pour vous ?
C'était plus délicat le Bataclan. Parce qu'au début, quand on m'a proposé, j'ai refusé. Je me suis dit, est-ce que c'est pas indécent d'abord de refaire vivre ce lieu qui est encore en deuil, est-ce que les familles sont prêtes, est-ce que moi je suis prêt à aller jouer dans ce lieu, est-ce que je suis capable d'être à la hauteur d'une mission pareille, quelle note serait la plus juste pour un moment aussi fou en fait que l'écho d'un drame aussi terrible. Donc c'est délicat c'est comme avoir la bonne parole. Vous savez, quand vous êtes dans une situation délicate, quelqu'un par exemple vit quelque chose de délicat et vous savez pas quoi dire. Et des fois, le mieux c'est de se taire en fait. Et finalement, c'est Sting qui m'a convaincu.
En vous disant quoi ?
Viens jouer avec moi. Voilà. Tout simplement. Il m'a juste demandé. Je me suis dit, si Sting y va. Sting, c'est quelqu'un qui a toujours été très juste, et dans ses positions, et dans son art. Puis je me suis laissé bercer par sa confiance, par la confiance que j'avais en lui et par celle qu'il avait en moi.
Et vous avez joué quoi, tous les deux ?
Une chanson qu'il a composée pour le Bataclan, qui s'appelle Inch'Allah. Et en plus, au-delà de ça, il y a des moments... Alors, moi, j'ai détesté... longtemps pendant ma scolarité d'être l'arabe de service, mais il y a des jours où il faut. Il y a des jours où c'est important, c'est une responsabilité d'être l'arabe de service. Il faut l'accepter, c'est pas grave en fait, c'est pas humiliant, au contraire, il y a des jours où c'est nécessaire et il y a des jours où il faut le refuser. Ce jour-là, c'est peut-être le seul dans ma vie où j'aurais eu, à mon avis, où j'aurais eu besoin de faire un choix sur ça, et où le choix aura été de dire « Ok, je vais le faire, c'est pas du tout humiliant, au contraire, on a besoin aujourd'hui de montrer qu'on est solidaire, on a besoin de montrer que la France est unie, on a besoin... Si je refuse, vous imaginez ? Donc voilà.
Et ça donnait quoi au piano ?
Alors, c'était pas au piano.
Mais ça donnerait quoi au piano ?
Alors, je ne connais pas les paroles de la chanson parce que c'était en anglais, c'est Sting qui chantait. Moi, j'étais plutôt concentré sur ma trompette, mais je me rappelle que ça faisait Inch'Allah, Inch'Allah, na 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 na. Voilà, c'était ça la mélodie. Voilà, c'était une chanson qui parlait de l'avenir plus que du passé. Il y avait quelque chose à la fois nostalgique et à la fois ouvert sur l'avenir, sur les espoirs qu'on doit avoir et qu'on est en droit et qu'on se doit d'avoir pour l'avenir.
Bien avant cette période-là, enfin quelques années avant, en 2011, vous aviez reçu à l'UNESCO un prix pour vous récompenser parce que vous œuvrez pour, je cite, le dialogue interculturel entre les mondes arabes et occidental. Tout ce que vous n'aimez pas, je pense, comme réduction de ce que vous êtes.
Mais quand c'est l'UNESCO qui voilà. Te le donne, tu te dis OK.
Ça vous a fait plaisir quand même. Vous êtes juste allé le prendre en disant, allez, c'est l'UNESCO, c'est OK, ou ça voulait quand même dire quelque chose?
C'est comme quand on essaie de décrire. Encore une fois, j'ai rien contre. Hein, je trouve ça hyper plaisant, flatteur, etc. Mais quand on essaie de décrire votre musique, je trouve qu'il y a quelque chose de foncièrement
réducteur, toujours.
Peut-être réducteur, mais surtout, on est à côté de la plaque forcément, en fait. Et, on peut pas décrire quelque chose. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez là tous.
Mais, faire un sondage,
mais je trouve ça toujours périlleux de vouloir mettre des mots sur quelque chose qui a existé justement parce que les mots n'étaient pas là. C'est bizarre, je trouve ça bizarre. Donc, qu'on me donne ce genre de récompense ou ce genre de prix honorifique, ben je suis ravi, honoré, mais je ne me sens absolument pas légitime, évidemment. Donc je le vis avec beaucoup d'humilité. Et surtout, je laisse les gens analyser par eux-mêmes si mon rôle il est de ceci ou cela, ou si c'est comme je laisse les gens analyser si ma musique est bien ou si elle est pas bien, ou si elle sonne plutôt jazz ou ceci ou cela. Moi, je rentre pas dans ces conversations-là. Donc jamais.
Alors, on arrête tout de suite. J'en pose une autre parce qu'il y a une autre étiquette, mais je pense que ce sera plus facile pour vous d'en parler. On dit de vous que vous êtes un dépoussiéreur. On dit par exemple. Si, je vous donnerai les articles où j'ai lu ça. On dit de vous, vous dépoussiérez ce piano de la maison de la radio qui, c'est vrai, est passablement sale. On dit de vous, par exemple, que vous avez rendu de nouveau la trompette sexy et branchée. On dit de vous aussi qu'à un moment, vous avez su dépoussiérer Dalida, après qu'Altoum Lorient vous poursuivait d'une certaine manière. Je crois que c'est Barclay, le label historique de Dalida, qui vous a demandé qui vous a proposé cette aventure-là. Et vous avez dit oui, parce que votre mère, toujours elle, adorait Dalida. Et ça donne un album extraordinaire. Merci, racontez un peu.
Merci. Pour l'album Dalida, c'est bizarre parce que là aussi j'avais dit non au départ et puis finalement j'ai fini par le faire. J'ai découvert quand j'ai commencé à me renseigner par rapport à Dalida que le frère de ma grand-mère maternelle Odette, donc son frère qui s'appelait Antoine, Odette est toujours vivante, elle a 97 ans, et je suis sûr qu'elle va écouter cette émission, et son frère Antoine, à l'époque ils habitaient en Égypte à côté d'Alexandrie, parce que ma famille sont des Libanais qui avaient émigré en Égypte il y a plus d'un siècle et demi, étaient sortis avec Dalida quand ils étaient jeunes.
Votre grand-oncle, c'était l'amant de Dalida?
Ouais. Bon, elle en a eu quelques-uns. Donc, mais il a été, une de ses conquêtes. Enfin, ouais. C'est pas elle qui a été une de ses conquêtes à lui, c'est plutôt lui qui a été une de ses conquêtes à elle. Et donc, du coup, c'était chouette, quoi. Je me disais, tiens, c'est marrant de reprendre ça pour faire plaisir à ma grand-mère, évidemment, qui adore Dalida et qui était allée la voir en concert et tout quand elle était jeune. Et ma mère qui, du coup, en effet, chantait tout le temps Dalida à la maison.
Elle chantait quoi? Quelle chanson en particulier?
Plein. Ma mère écoutait beaucoup de musique italienne, donc c'est ce qu'elle aimait un peu chez Dalida
aussi. Elle aimait Bobino?
Bambino?
Que vous avez confié ensuite à Alain Souchon.
Oui. Et en fait, elle écoutait ces trucs-là, le côté un peu italien. Donc, elle était plutôt sur ces délires-là. Mais j'ai pas voulu reprendre cette chanson-là parce que je trouvais vraiment que c'était compliqué en jazz. Mais...
Enfin, je vous avais confié Parole et Parole
ouais,
à M, avec Monica Bellucci dans le rôle d'Alain oui, Delon. Ça, alors c'était génial.
Mais oui, alors ça, par contre, c'était vraiment génial. Parce que, en effet, je voulais faire Parole et Parole, mais je voulais le faire à notre époque. Sauf que, alors, à l'époque de Dalida et Delon, c'était lui qui voilà, l'homme... N'est-ce pas? Et elle qui était la pauvre, qui subissait ce truc-là.
La victime.
Et je me disais, aujourd'hui, c'est plus du tout vrai, ça.
Je sais pas.
Et je crois que les choses...
Il y a des mots sceptiques, hein, quand même, dans la salle.
Les choses ont pas mal changé, je trouve. Et donc, du coup, je trouvais ça beaucoup plus juste que ce soit Mathieu, avec sa petite voix un peu féminine, comme ça, qui dit... comme ça. Et elle qui lui répond... Mais oui. Voilà, je trouvais ça... Et qui d'autre que Monica Bellucci pouvait remplacer Delon dans ce rôle? Et ouais. Je trouvais ça génial de les avoir tous les deux. Et ça donne vraiment, en effet, un morceau écho.
Dément,
en fait.
Ouais. Et vous avez chanté... Elle venait d'avoir
alors
18
oui,
ans.
Non, moi j'ai joué à la trompette, elle venait ouais. d'avoir 18 ans. Et en fait, je voulais que ce soit Morane qui chante Il venait d'avoir 18 ans. Et Morane, je pense qu'elle était dans une période où elle était, voilà, elle était pas bien. Et donc elle a dit non. Et moi, je voulais pas la remplacer. Parce que dans cet album, personne n'a été remplacé. Il n'y a pas eu une première proposition, puis ensuite ils ont dit non, on l'a refait. Il n'y avait pas de plan B. Donc tous ceux qui ont participé, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. De Ben l'oncle Saul, Souchon, Rokia Traoré, Mathieu, Monica Bellucci et tant d'autres. Ils ont tous accepté le défi. Et Morane, malheureusement, elle a dit non, moi je ne pourrais pas. Voilà. Et donc, je ne voulais pas la remplacer, je l'ai fait moi à la trompette. Non, moi j'ai chanté, j'ai fait un duo avec Mélodie Gardot, on a repris J'attendrai, qui est une de mes chansons préférées de tout le répertoire français, et que Dalida avait, c'est une très vieille chanson française, et que Dalida avait reprise à sa façon. Et du coup, je lui ai dit, tiens, Mélodie, on va faire, ça te dit que ce soit toi qui la chante. Elle m'a dit, oui, à condition que tu chantes avec moi.
Et alors? Elle n'est pas là aujourd'hui, mais vous êtes là.
J'attendrai.
Ouais.
Je ne sais pas si je me souviens des accords. Alors, j'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit. Merde, pardon. Viens chercher l'ennui dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans... Bon, je continue ou on s'arrête là parce que...
Ah, c'est bien, c'est bien. Même avec des paroles en moins, c'est bien.
Bah ouais, j'en ai surtout mis en plus là, non?
Je sais pas. Je me souviens plus suffisamment bien de la chanson. Alors, vous avez dit cette phrase étrange, j'arrêterai tout le 5 novembre 2020, le jour de mai. Alors, je n'ai pas compris, c'était vos 40 ans, vos 41 ans.
41 ans, 41. Il y a eu des erreurs.
Vous repoussez d'un an.
Non, il y a eu une erreur sur les chiffres.
Vous dites ça quoi? Pour vous faire peur? Pour nous faire peur? Est-ce que vous êtes sûr d'y parvenir?
Au contraire, c'est pour rassurer tout le monde. Enfin, tous ceux qui m'aiment bien, je veux dire. Mais non, c'est l'inverse de faire peur. Moi, je détesterais. Non, pour pas que les gens soient surpris au moment où je dis j'arrête, pour pas que les gens, pour que les questions soient éparpillées dans le temps aussi, que d'un seul coup je me retrouve pas à 40 ans avec plein de gens qui me disent mais pourquoi du coup c'est fait comme ça, là ça fait des années que j'en parle.
Mais qu'est-ce que vous ferez?
Et quand ça va arriver, ça va être banal, tout le monde va s'en foutre complètement.
Je suis pas sûre, mais qu'est-ce que vous allez faire?
Je vais continuer à faire de la musique, je vais
pour
continuer
les
à faire des concerts, ou pour moi aussi, mais pas à la trompette.
C'est juste la trompette que vous arrêtez, pas le reste.
Exactement. Exactement. Non, je peux pas arrêter le reste, c'est mon oxygène. Le reste. Mais non, la trompette, c'est vraiment, honnêtement, c'est voilà. Moi, c'est, je crois qu'il y a vraiment des gens qui sont passionnés de ça et qui pourraient faire. Vous savez, il y a une des raisons pour lesquelles j'ai joué autant de trompettes aussi depuis tant d'années, c'est que mon père a inventé une trompette qui jouait...
À 4 pistons, c'est ça ?
Voilà, il a fait une invention dans les années 60, qui est la trompette qui permet de jouer les gammes arabes. Et d'arrêter ça, c'est un peu brutal, parce que c'est un héritage, et personne ne joue cette trompette à part moi. Enfin, non, jusqu'à il y a quelques années, personne n'en jouait à part moi. Et si j'avais arrêté, pour mon père, ça aurait été un échec, parce qu'il rêvait que tout le monde joue cette trompette. Il voulait absolument que... d'un seul coup, tout le monde comprenne l'intérêt d'une trompette microtonale et l'intègre dans leur musique, etc. Et personne ne l'a fait. J'étais le seul. Donc, je me sentais un peu responsable. Si je m'arrête, ça va le rendre triste. Donc, du coup, j'ai continué. Et depuis quelques années, là, ça va faire bientôt 10 ans, je donne des cours de trompette à quart de ton, donc trompette microtonale, à plein d'autres gens, pour que quand je m'arrête, je culpabilise moins.
Pour transmettre quand même. Ouais.
Voilà, pour transmettre, et puis pour que finalement, si mon père me dit « mais pourquoi tu arrêtes ?» Je dis « bah regarde, il y en a 60 autres qui jouent, c'est très bien ». Et donc du coup, là je suis content, il y a des gens, j'ai vu en Bulgarie, en Turquie, au Liban, en Syrie, même en France, il y a quelques personnes, aux États-Unis, il y a quelques personnes, en Angleterre, il y a une jeune fille qui s'appelle Yasmine, Ahmed qui joue de la trompette, qui commence à mettre des quarts de ton. Enfin voilà, je suis content. Voilà, ça, il y a d'autres personnes qui le font maintenant, donc je peux m'arrêter tranquille.
Par quoi vous allez remplacer la trompette ?
Je remplacerai pas. Non, je remplacerai pas. La trompette, c'est une. si je comparais ça avec l'amour, je dirais que c'est comme avoir vécu pendant très longtemps avec quelqu'un qui est irremplaçable. Juste, je me sépare, mais je veux pas remplacer.
Vous avez fait déjà tellement de choses, tellement d'albums, tellement de concerts, touché à tellement de possibilités entre écrire pour les autres, jouer pour les autres, jouer pour le cinéma. Qu'est-ce qui vous excite encore vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a encore comme territoire à conquérir ?
Regardez, le cinéma beaucoup. Vous voyez là, ce que vous venez de dire, on peut faire un jeu ?
Je crains le pire, qu'est-ce que vous allez faire ?
Regardez, je vais vous dire qu'est-ce qu'il reste à faire, vous allez comprendre. Vous pouvez redire ce que vous avez dit avec le même ton. Oui, allez-y.
Je sais pas.
Allez-y à peu près.
Ibrahim Malouf, savez-vous ce qu'il vous reste à conquérir dans les années à venir ? J'ai un peu forcé le trait là quand même.
Vous voyez ce que je veux dire ? Là, si je le joue comme ça, on a l'impression qu'on parle à titre posthume un peu. Oui. Alors que, regardez, redites exactement la même chose avec la même tonalité.
Ibrahim Malouf, qu'est-ce qu'il vous reste à conquérir dans les mois qui viennent ?
Mais vous avez triché un peu là. Vous avez dit dans une.
Je suis pas obligée d'être votre victime.
L'avantage de la musique, c'est que ça s'arrête jamais. En fait, en fonction de l'image, du film, du moment, etc., la musique peut avoir plein de propos différents, peut transformer ce que vous êtes en train de dire, la tonalité de ce que vous êtes en train de dire. Et donc c'est intarissable. C'est une culture qui peut avancer, se créer. Donc je continuerai à m'amuser avec ça, longtemps.
Eh bien, continuez de vous amuser. Et puis, comme c'est votre masterclass, Ibrahim Malouf, vous avez même le droit de jouer votre générique de fin. Merci beaucoup, vraiment, d'avoir été avec nous aujourd'hui, Maison de la Radio. Merci à vous.
On a combien de temps à peu près, en vrai ?
Quelques minutes seulement.
Est-ce que quelqu'un pourrait proposer quelque chose dans le public, comme une petite phrase, un truc ? On va improviser un truc tous ensemble. On va faire une improvisation collective, ça vous dit ?
Oui.
Alors, l'idée ? Quelqu'un peut lever la main, une petite idée comme ça qui sort ? Allez, tout à l'heure, vous avez levé la main.
Oui, c'est vrai, vous vouliez danser du rap.
Chanter du rap. Une petite note, une note, une note. Une note. Est-ce que tout le monde peut faire ça ?
C'est un peu aigu, hein ?
Ouais, mais c'est ça va être la tonalité du morceau. C'est vous qui l'avez décidé.
La classe.
Alors, quelqu'un pour nous proposer peut-être une petite formule, une petite phrase de 2-3 notes comme ça ? N'importe quoi. Allez-y. On veut faire tout ça ? Je vais chanter une fois, vous le faites après moi. Encore une fois. Encore. Thank you.
Merci.
C'était la masterclass d'Ibrahim Malouf avec Émilie Aubry. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillant.